Bonjour. Bonjour à chacun, bonjour à chacune. Bienvenue. Bienvenue à vous tous. Ça fait plaisir de voir une église un peu remplie. Bienvenue à vous les jeunes, tout jeunes. Bienvenue aux moins jeunes. Bienvenue aux habitués. Que vous soyez de Mérin ou d'un peu plus loin. Que vous alliez régulièrement à l'église ou pas, que vous soyez les bienvenus, que vous puissiez vous sentir à l'aise, et puis que vous puissiez vivre chacun un temps particulier. On vous salue également, je ne sais pas si ça marche, mais si vous nous suivez en streaming, super, ouais, alors que vous puissiez également vous sentir participant de ce culte. Et ce matin, on accueille particulièrement les Léniel. Alors, Marie-Léa, Cyril, puis surtout Adrien, et puis toute la famille, tous les amis, tous les proches. Alors, on en connaît certains, on connaît Cyril, Marie-Léa, on commence à connaître Adrien. Et puis, en église, en communauté, on veut prendre... On veut prendre un temps pour le présenter entre nous, mais surtout à Dieu. Même si Dieu, en fait, lui, il le connaît. Il le connaît déjà, même mieux que son papa et sa maman. Et puis depuis toujours. Un peu difficile d'imaginer tout ça, mais c'est ce qu'on vit, ce qu'on croit. Alors je vous accueille tous au nom de l'équipe qui a préparé et qui travaille à ce culte. Merci à chacun, ça en fait du monde, certains un peu au pied levé. Mais c'est surtout Dieu lui-même qui nous accueille. Et lui, Dieu, il se réjouit. Il se réjouit de votre présence, à chacun, à chacune, ce matin. Alors je vous invite à prier avant qu'on chante un premier chant. Seigneur, merci de nous accueillir ce matin. Quel que soit notre état, quel que soit notre parcours, peu importe où nous en sommes avec toi, tu te réjouis de notre présence et de ce temps qu'on va passer, qu'on passe avec toi. Ensemble, nous voulons te rendre un culte, chanter pour toi, être proche de toi, être à ton écoute, te prier et être renouvelé par ton esprit. Nous nous plaçons devant toi, entre tes mains. Alors, nous t'en prions que tu viennes habiter ce temps de ta présence, le remplir de ta paix, de ton amour, le remplir de ta joie. Que nous puissions être ouverts à ta parole, à ton esprit. Ensemble, nous te remettons aussi ceux qui nous sont proches et qui ne peuvent venir ce matin. Que tu veilles sur nos aînés comme les plus jeunes. Et nous te prions pour ton Église, ici à Mérin, ton Église partout dans le monde, que tu veilles sur elle et que tu gardes chacun de ses membres. Amen. Alors, je vous invite à vous lever, on va prendre un premier chant qui dit « Éveille-toi mon âme, Christ ressuscité ». Tu vis en moi.
Thank you.
Vous pouvez reprendre place. Nous avons donc un culte un peu particulier ce matin, avec la présentation d'Adrien. Philippe, notre pasteur, nous parlera du sens de cette présentation. Ensuite, il y aura le temps de la présentation à proprement parler. Nous pourrons entendre Cyril, Marie-Léa, peut-être Adrien aussi. Nous prendrons aussi un temps pour prier ensemble. Ça, pour nous, c'est important. Et après ce temps, il y aura encore un message avant d'arriver à la fin du culte. Mais pour l'instant, on vient de chanter « Éveille-toi mon âme, il vit en moi ». Le Christ, ce Jésus avec lequel les disciples ont vécu tant de choses, ils l'ont vu ressuscité après Pâques. Ils ont passé du temps avec lui. Et à l'ascension, ils l'ont vu disparaître. Ils l'ont vu remonter au ciel auprès du Père. Et maintenant, on est quelques jours plus tard, 50 jours après Pâques. Les disciples se retrouvent ensemble, ils prient. C'est encore un temps de rassemblement, un temps de fête. Et là, ce qui avait été annoncé par Jésus, mais aussi par les prophètes de l'Ancien Testament, ce qui avait été annoncé arrive, la Pentecôte. Pierre, un des disciples qui est présent à ce moment-là, il explique « Je répondrai de mon esprit sur tout être humain. Vos fils et vos filles deviendront prophètes. Je parlerai par des visions à vos jeunes gens. » Par des rêves aux plus âgés parmi vous. Oui, je répandrai de mon esprit sur mes serviteurs et sur mes servantes en ce jour-là. » Alors il cite justement un prophète de l'Ancien Testament. Ben, c'est pour ça qu'on est en congé demain.
C'est pas bien.
Ouais. Il n'y a pas l'école. Dieu a envoyé son esprit pour ses disciples à l'époque. Et bien pour nous maintenant, même si on n'a pas souvent cette sensation de pouvoir témoigner de cette manière, avec des langues de feu, que tout le monde comprenne, et bien son esprit, l'esprit de Dieu, il veille sur nous, aujourd'hui encore, en attendant qu'on retrouve Jésus et Dieu le Père. Cet esprit, il est consolateur. Il nous donne du courage, il nous donne de la force, il produit du fruit dans nos vies. Il est un feu qui peut tout enflammer, et il est aussi une douce chaleur qui nous restaure. Il a un souffle rafraîchissant, il est le vent dans nos voiles qui nous fait avancer. En fait, cet esprit, il atteste que Dieu est présent avec nous, en nous. Alors c'est ce que je nous souhaite à tous, qu'on puisse vivre avec cet esprit en nous. Et je vous invite à le chanter maintenant aussi par quelques chants, dans un temps, on appelle ça un temps de louange. Voilà, je laisse la place aux musiciens. Et puis après le premier chant, les enfants, ils pourront rejoindre les différents groupes. Alors il y a deux groupes, les renards et puis les lucioles. Donc à la fin du chant, les moniteurs et les enfants, vous pourrez rejoindre les groupes en bas. Et puis s'ils veulent rester, ils peuvent aussi, mais voilà, après c'est un culte. Nous voulons te remettre les enfants qui vont dans leur groupe, que tu les bénisses aussi et qu'ils puissent aussi avoir ce temps de culte avec leur moniteur, que tu puisses veiller et enseigner et puis que tu les gardes aussi dans tout ce qu'ils vivent parce qu'ils ont aussi une place auprès de toi et une place dans l'Église. Amen. Voilà, je vous laisse rejoindre les groupes et on continue.
Consolation, une lampe dans chantons un souffle nouveau.
Bonjour à chacun, à chacune. Pour vous qui ne me connaîtriez pas, je m'appelle Philippe, Philippe Onchaud. J'ai le bonheur d'être l'un des deux pasteurs avec ma collègue Célina de cette église locale de Mérin Village et très heureux de vous accueillir. Cyril, Marie-Léa, c'est un vrai bonheur de vivre ce temps. On l'a préparé un peu ensemble il y a forcément de l'émotion, vous vous êtes fait tout beau, surtout toi, Cyril, parce que Marie-Léa est toujours magnifique, mais Cyril, ça, non, c'est pas vrai. La classe. Qu'est-ce qui conduit Cyril et Marie-Léa à présenter, puisque c'est le mot technique, à présenter Adrien à Dieu, à présenter Adrien à l'Église? Ou pour le dire autrement, c'est quoi le sens de ce geste? De quoi la présentation est le nom? Est-ce que Dieu ne connaît pas déjà Adrien? Ne sait-il pas déjà qui il est, lui qui a fixé le cours des étoiles? Est-ce que nous avons affaire à un Dieu qui aurait besoin d'être informé par une intelligence humaine? C'est quoi le sens de ce geste? La Bible se compose de deux parties, il y a l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et dans l'Ancien Testament, il y a très très longtemps, on est sur du 5-6 000 ans, Dieu avait instauré un rite. Un rite par lequel on marquait son entrée et son appartenance au peuple de Dieu. Et ce rite, qui existe toujours dans le judaïsme en particulier, c'est le rite de la circoncision. Circoncision, petite opération, qui consiste à ôter le bout de peau qui recouvre le prépuce. Ce geste, il est instauré dans l'Ancien Testament comme un commandement, on n'est pas sur une option, on est sur un commandement, en Genèse 17, avec Abraham, le père des croyants. Puis, la consécration de l'enfant mâle premier-né, elle est rappelée en Exode 13, verset 2. Et c'est donc en application de cette loi que, des millénaires plus tard, Jésus lui-même, le Fils de Dieu, est présenté dans le temple. Cela dit, le rite de la circoncision, le rite de la présentation, était relativement restrictif, puisque seuls les garçons étaient ainsi circoncis à l'âge de 8 jours et présentés au Seigneur. Seuls les gars. Bon, on est quand même dans une société, il y a 5-6 000 ans, et hélas aujourd'hui des fois encore, qui est super patriarcale. Toujours est-il que la présentation et la circoncision, elles concernent que les gars. Et la présentation que les gars premiers-nés. Et puis on arrive à cette deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, où aucun texte du Nouveau Testament ne rapporte que cette tradition de la présentation, de la consécration, de la circoncision ait été répétée dans l'Église primitive. Ça n'existe pas. Quand vous ouvrez le Nouveau Testament, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est marrant, hein, parce qu'on a un héritage de millénaires, puis quand on arrive au Nouveau Testament, quand on arrive à Jésus, quand on arrive à la croix, quand on arrive à la résurrection, à l'ascension, à la Pentecôte, ce type de rite n'existe plus. Pourquoi ? On va faire très court. C'est parce qu'avec la venue de Jésus, avec l'arrivée de Jésus, avec l'œuvre de Jésus, il n'est plus question d'une circoncision de la chair, mais il est question d'une circoncision du cœur. C'est l'être tout entier qui doit être changé. La circoncision du cœur. Avec la venue de Jésus, qui est le seul médiateur entre Dieu et nous, on reprend contact avec Dieu par la foi, par la confiance, par la reconnaissance qu'on a besoin de lui, que nos fautes doivent être lavées, qu'on a besoin de quelque chose de plus grand, de plus fort que notre seul petit horizon humain. Dès lors, dès le Nouveau Testament, le seul geste visible qui accompagne le changement de cœur, ben c'est le baptême. Il n'y en a point d'autre. Le seul geste visible qui accompagne le changement du cœur, c'est le baptême. Le baptême, qui est un choix personnel, qui est un choix qui engage, qui est un choix qui mouille au premier comme au second degré, et qui doit être fait en toute connaissance de cause par des personnes à même de mesurer les conséquences de leur choix. Et sans la foi, le baptême ne fait que mouiller. Alors, en quoi consiste le geste de présentation que vous allez faire aujourd'hui, Cyril et Marie-Léa ? On va vous entendre dans quelques instants. Vous allez nous dire ce qu'il y a dans votre cœur et que vous avez envie de nous partager. Eh bien, en fait, je crois que le geste de ce matin, il vous concerne autant vous que votre petit gars. Autant vous deux qu'Adrien. J'ai un message d'erreur. Est-ce que tu peux envoyer la première slide, Laurent ? Impossible d'effectuer la demande. Veuillez vérifier les paramètres réseau. Alors ça, c'est pour le baptême. C'est bien qu'on ait commencé à parler du baptême. Ça viendra à la fin. Mais normalement, j'ai un fichier projection culte. Voilà. Mais c'est génial. Merci. Il y a un proverbe qui dit ceci. Une génération plante les arbres et une autre en retire de l'ombre. Cet arbre-là, c'est un noyer. Il fait partie des très rares arbres remarquables du canton de Genève. Je crois que c'est le seul. Il se situe sur la commune de Meignet, de l'autre côté du lac. Un noyer, 160 ans. Nous vivons à l'ombre de nombreux arbres plantés par ceux et celles qui nous ont précédés. Beaucoup de nos parents avaient des normes éthiques, des normes morales, leur perception du bien et du mal, leur sens du devoir, leurs valeurs, et pour plusieurs d'entre nous, leur amour pour Dieu et leur consécration à Dieu. Toujours est-il que les idéaux de nos parents ont façonné pour une part notre vie, comme vos idéaux vont façonner la vie d'Adrien. Alors la question à laquelle nous devons essayer de répondre en tant que parents aujourd'hui, c'est de savoir si nous pouvons planter des arbres qui protégeront et à l'ombre desquels nos enfants pourront grandir. Vous êtes, vous, parents d'un petit enfant encore, et devant un immense défi. Votre défi, comme tout parent, c'est celui d'amener un jour Adrien à l'indépendance. Ah, ça déchire nos cœurs de parents, hein. Mais le défi, c'est de l'amener un jour à l'indépendance, à la capacité de s'autodéterminer, de faire des choix en toute connaissance de cause. Vous allez lui filer les clés au fur et à mesure de la route. Et bien sûr, je sais, parce qu'on en a parlé, que vos cœurs désirent plus que tout qu'Adrien expérimente un jour le salut en Jésus-Christ et la joie, le bonheur qu'il y a de vivre comme un chrétien. C'est un défi, un truc de dingue. Déjà, amener des enfants à l'indépendance dans le monde dans lequel on est, c'est un truc de fou. Moi, je suis super content que mes enfants soient adultes aujourd'hui, quoi. C'est super compliqué d'amener des enfants à l'indépendance. Mais en plus, leur donner le goût d'aimer et de suivre Jésus, quel défi. Comment le relever? Qu'est-ce qu'il faut transmettre? Comment transmettre? Il y a dans l'Ancien Testament un texte qui en parle et que je vous invite à lire, juste pour tirer quelques principes, et peut-être, Laurent, tu peux afficher ce deuxième slide. Ce texte, il montre que les parents sont les canaux principaux de la grâce de Dieu. Vous êtes plein de la grâce de Dieu, et vous êtes les canaux principaux pour la manifester. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces paroles que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les répéteras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi, ou quand tu seras en route, quand tu te coucheras, ou quand tu te lèveras. Vous êtes les canaux principaux de la grâce de Dieu. Et pour une bonne part, Adrien ne pourra recevoir que ce que vous avez reçu vous-même, que ce qui vous a personnellement touché. Et je trouve assez touchant de voir dans ce texte, ce vieux texte, que le centre de l'humain, c'est le cœur. Le centre de l'humain, c'est le cœur. L'important, c'est le cœur. Au cœur, il y a le cœur. Le cœur conditionne le reste de la vie, et notre vie est finalement l'expression de ce qu'il y a dans notre cœur. La première étape pour que nos enfants soient comme exposés à la grâce de Dieu, c'est que notre propre cœur soit touché comme le vôtre l'a été et le sera encore. Et dans ce domaine, je sais que nous devons être vigilants Parce que donner son cœur au Seigneur, c'est un truc du quotidien, c'est pas un truc du dimanche matin, c'est pas un truc de Noël ou de Pâques, c'est un truc du quotidien, donner son cœur au Seigneur. C'est lui rester attaché, coûte que coûte, et que ses affaires deviennent les miennes. Le verset 7 démontre une autre chose. C'est que le Seigneur veut que ce que nous connaissons aille finalement à nos enfants. Tu répéteras. Tu répéteras à tes enfants. Ça signifie plus que proposer. Ça implique que vous vous mobilisiez pour Adrien. Pas que vous lui imposiez des trucs. Enfin, c'est un enfant, hein. Mais vous lui filez les clés de l'indépendance. Mais inculquer, ou comme dit ici, répéter, c'est plus que proposer. C'est se mobiliser. Littéralement, on pourrait traduire répéter par littéralement que votre richesse devienne la sienne. C'est magnifique l'hébreu, hein ? Que votre richesse devienne la sienne. Adrien et Marie-Léa, on se connaît un peu. Vous êtes vraiment des gens formidables. Vous êtes blindés de dons, de compétences, de qualités. Marie-Léa, ton témoignage il y a 2-3 semaines, je l'ai encore dans l'oreille. Que votre richesse devienne la sienne. Que ce que vous avez devienne à lui. Pas seulement les biens mobiliers, pas seulement des compétences que vous avez, pas seulement l'humour ou les compétences techniques ou ce que vous êtes, ce que vous avez. Que ça devienne à lui. Et finalement, le verset 7 montre aussi que ce n'est pas seulement à l'Église que l'on parle de Dieu. Ça, c'est un peu un mythe très très moderne. Que c'est à l'Église qu'on parle de Dieu. Comme on dirait, c'est à l'école qu'on fait l'éducation. Mais si on file que l'éducation à l'école, c'est cuit. Bien sûr qu'il faut l'école, parce qu'il y a des savoirs particuliers. Bien sûr qu'il faut l'Église, il y a des savoirs particuliers. Bien sûr. Mais c'est d'abord au sein même de la maison que les choses se passent, au cœur de notre vie. Ici, il est question de l'éducation spirituelle de nos enfants. On peut également la faire, cette éducation, en voyage, dit notre texte. En voyage. Ce qui montre bien que Dieu n'est pas lié à un lieu géographique. L'éducation spirituelle de vos enfants, c'est vos responsabilités. T'es d'accord, on dirait en plus, hein ? C'est cool d'entendre ta voix, Adrien. Alors je conclue cette première partie en relevant que le défi de la transmission de nos valeurs, parmi lesquelles la foi, est un défi colossal. Nous sommes des parents imparfaits. Nous sommes des parents faillibles, ce qui doit nous conduire vers l'humilité et vers la dépendance de Dieu. Ce qui doit parfois aussi nous conduire à reconnaître nos torts, à demander pardon et à progresser encore et encore. La tâche, elle est vaste. Le chantier, il est important. Mais il doit nous motiver pour le bien et le meilleur de nos enfants, comme pour notre bien et celui de toutes les générations à venir. Alors la présentation de ce matin, elle revêt un caractère particulier. Ce que nous voulons dire par ce geste, c'est Seigneur, voilà cette vie encore toute neuve. Voilà celui, voilà Adrien. Il est tout neuf. Faut que t'en prennes soin. Et voilà aussi Cyril et Marie-Léa. Celui, celle, qui, pour un temps au moins, en auront la responsabilité. Alors Seigneur, inspire-les, garde-les, réjouis-les. Le Seigneur en est témoin, nous l'appelons. Il sait que nous l'aimons, il sait que nous comptons sur lui. Nous avons besoin de son aide. Et l'Église en est témoin aussi. Et c'est pour ça que nous sommes rassemblés ce matin. Et c'est pour ça qu'on met le paquet sur un culte de présentation. L'Église en est témoin. Alors nous nous engageons derrière vous, nous nous engageons avec vous, nous nous engageons à prier pour vous et pour Adrien, comme nous le faisons pour les autres enfants de l'Église. Nous nous engageons aussi à être à vos côtés et à ne pas vous juger, parce que l'éducation c'est tellement compliqué. Là ça va, c'est encore assez cool. Mais à l'adolescence, connaissance, on sait. Et on sait que parfois, dans la comparaison, les gens peuvent être très durs. Alors nous prenons un engagement. Nous prenons un engagement de vous aimer, de vous accompagner, de ne pas vous juger. Jamais. Et nous aimerions être là pour vous assister un tant soit peu dans cette noble et belle tâche de construction. Venez seulement avec Adrien. Et puis on va écouter ce que Dieu vous a mis sur le cœur, ce que vous avez envie de partager avec nous. Est-ce que je dois appuyer sur un bouton ?
Le rouge. Bonjour à tous. Merci en tout cas d'avoir déjà fait la route ce matin et pour la plupart d'avoir franchi la douane. C'était pas forcément très facile, j'imagine. Ce matin, comme l'a dit Philippe, vous venez pas assister au baptême d'Adrien. Je pense que ça, vous l'avez compris. Pour autant, vous allez être témoin d'un engagement fort qu'on souhaite prendre pour lui. Cet engagement, c'est d'abord celui de parents, donc Marie-Léa et moi, qui souhaitons ce qu'il y a de meilleur pour la santé, notamment, et la vie d'Adrien. Alors, est-ce qu'il a trop chaud, est-ce qu'il a trop froid ? On peut même, là, en ce moment, se poser la question. Est-ce qu'on doit lui faire les petits pots à la maison, ou bien les acheter en grande surface, parce que c'est plus rapide et plus simple ? Est-ce qu'on doit lui faire un câlin, ou est-ce qu'on doit le laisser encore pleurer une minute ou deux ? C'est quoi le meilleur dans tout ça ? Eh bien, ni sa maman ni moi-même avons la réponse complète. Déjà, nous ne sommes parfois pas d'accord, c'est dire. Notamment pour les petits pots. Le meilleur, selon nous, n'est sûrement pas ce qui est le meilleur pour lui. Alors quand on doute, on s'en remet à Dieu. Ça ressemble à des paroles comme ça. Seigneur, prends soin de lui, Adrien. Permets que nous soyons des parents attentifs et patients, et surtout protège notre fils. Nous croyons qu'en leur mettant dès aujourd'hui entre les mains de Dieu, en le bénissant au sein de l'Assemblée, et en lui donnant une éducation basée sur les principes de la Bible, il sera sous la protection divine et pourra discerner tout au long de sa vie ce qu'il y a de meilleur. Dans ma vie personnelle, comme tout le monde, j'ai dû faire des choix qui parfois n'étaient pas simples. Réviser ou aller jouer dehors, m'engager ou flirter, dire la vérité ou la masquer, réagir avec contrôle ou avec colère, pardonner ou condamner. Bien souvent, bien décidé est souvent l'héritage d'une éducation bienveillante. Agir avec sagesse est le cadeau de Dieu pour qui se confie en lui. Si je prie, alors Dieu disposera mon cœur à faire le choix qui est bon. Adrien, ta maman et moi serons toujours là pour t'épauler dans les moments difficiles. Et si tu apprends à connaître l'amour inconditionnel de Dieu à ton égard, tu trouveras toujours la paix. Ta vie ne sera pas un long fleuve tranquille. Avec Dieu, je souhaite que tu trouves ce gilet de sauvetage qui, quoi qu'il arrive, saura te ramener au rivage.
Ça fait 30 ans qu'on n'avait pas eu le mangeage de micro.
À mon tour. Alors moi, c'est plus pour Adrien. Adrien, ta venue a été un bouleversement dans nos vies, un très heureux bouleversement. Avant même ta naissance, nous t'avions remis dans les mains de Dieu. Avec papa, nous savons que Dieu veille sur toi chaque jour, à chaque heure. Nous espérons que tu apprennes à connaître le grand amour que Dieu a pour toi. Nous espérons que tu puisses te reposer sur lui et lui confier tous tes soucis. Et nous espérons que tu puisses aussi réaliser combien ces bénédictions sont nombreuses. Nous souhaitons de tout notre cœur que tu apprennes à le connaître personnellement, à être à son écoute et à suivre ses enseignements. Tu pourras prendre exemple en toutes circonstances sur Dieu, afin de progresser dans l'amour, dans la joie, dans la paix, dans la patience, la bienveillance, la bonté, la foi, la douceur et la maîtrise de soi. Je me suis permise de m'approprier le poème écrit par Audreuil Michel en 1997. La vie, c'était avant-hier, quand on te voulait, quand tous les deux on t'espérait, quand tous les deux on t'attendait. La vie, c'était hier, quand tu es apparu, quand nos yeux t'ont reconnu, quand dans nos bras on t'a reçu. La vie, c'est aujourd'hui, quand tu jases et que tu ris, quand parfois une larme te trouble, quand on cherche à qui tu ressembles. La vie, c'est aussi demain. Chaque jour, tu avances sur ton chemin. Avec Dieu, tu marcheras. Il saura accompagner tes pas. En t'aimant et en te respectant dans toute ta personne, Adrien, nous promettons de partager avec toi notre foi et notre espérance, nos certitudes et nos questions, pour t'aider à forger ta propre foi, pour t'aider à avoir confiance en Dieu et en la vie. Nous t'aimons.
Et je vais inviter... J'invite Joanne et Rebecca, des amis, à venir prier pour Cyril, Marie-Léa et pour Adrien. Et puis je conclurai encore ce moment-là.
Merci Seigneur pour ce cadeau que tu nous as donné en tant qu'Église, ce petit Adrien, mais surtout à Marie-Léa et Cyril. Merci Seigneur pour que tu as donné ce cadeau, ce petit bonhomme à Marie-Léa et Cyril, que eux ils ont les meilleurs parents qu'ils peuvent avoir. Toi tu as tout prévu. Seigneur, je te demande que tu veilles sur lui, que tu lui gardes, que tu lui fasses grandir et que tu donnes la sagesse, l'espérance, la foi, tout ce que les parents ont besoin pour faire grandir ce petit bonhomme, Seigneur. Qu'ils savent que l'Église est derrière eux, on est là pour les soutenir, on a une épaule pour les pleurs, on a des oreilles pour écouter, on a des cœurs qui sont là pleins d'amour pour eux, mais aussi pour ce petit bonhomme qu'on puisse voir grandir dans notre Église. Et surtout aussi nos bouches qui sont là pour prier pour eux, Seigneur. Et merci Seigneur pour ce cadeau que tu... Ouais, bénis le Seigneur. Amen. Amen.
Dieu et Père, nous voulons te remercier pour Adrien. Il vient compléter cette famille ici à Mérin et nous responsabilise aussi de prier pour lui, de penser à lui et d'accompagner aussi ses parents dans ce chemin de l'éducation, de l'apprentissage de la vie et de la foi en Dieu. Nous voulons te demander pour Adrien que tu le remplisses de ta sagesse, de ton intelligence et que tu veilles sur lui. Nous te demanderons aussi pour Marie-Léa et Cyril de les accompagner en tant que parents. C'est toujours un travail ingrat parce qu'on a la reconnaissance qu'après de nombreuses années et encore. Et nous voulons te demander de les accompagner, de les fortifier, de toujours croire que en s'appuyant sur toi, on fait les justes choix par sagesse et par intelligence. Nous te demandons de bénir cette famille par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Amen. Amen.
Cher Seigneur, j'aimerais te présenter Adrien. Tu le connais déjà, ça fait un bout de temps. Tu sais qui il est, tu sais ce qu'il deviendra. Nous aimerions le recommander à ta grâce, te demander de veiller sur sa vie, te demander de parler à son cœur, te demander de le protéger. Et nous invoquons ta bénédiction sur lui, en sachant que tu l'accompagneras du premier au dernier pas. Et Seigneur, nous te prions pour Cyril, pour Marie-Léa, en te demandant aussi que toutes les ressources de ta grâce reposent sur eux, pour l'éducation, l'accompagnement, pour les moments joyeux, pour les moments plus exigeants. Seigneur, sois avec eux. Nous sommes tellement reconnaissants de te prier dans le nom de Jésus qui fait de nous une famille. Et c'est en son nom que nous te recommandons, Adrien. Amen.
Nous voulons encore ouvrir ce temps de prière. Si vous désirez aussi prier pour Adrien, et pour la communauté, les autres enfants. Voilà, nous, il n'y aura pas de micro, donc priez assez fort. Et puis, je conclurai ce temps. Voilà.
Seigneur, nous te portons Adrien ce matin. Aussi, Seigneur, que tu le fasses grandir, de trouver ton chemin et pouvoir, Seigneur, te servir, Seigneur. Ouais. Nous bénissons ses parents et tous les parents de tous les enfants qui sont dans la communauté. Seigneur, voilà, c'est dans le nom de Jésus que je t'apporte ma prière. Amen.
Amen.
Et Dieu et Père, de la même façon que tu as apporté cette grande lumière dans la vie de Cyril et Marie-Léa, que tu puisses aussi être une lumière chaque jour dans la vie d'Adrien. Amen.
Ouais, Seigneur, je te remercie pour l'arrivée d'Adrien dans ce monde. Je te prie qu'en tant que communauté, en tant que grande famille, on puisse être à l'écoute des besoins des parents et des besoins d'Adrien.
Merci de nous avoir accordé Adrien pour faire encore grandir notre famille. Merci Seigneur de tous les projets que tu as de bonheur pour sa vie.
Ouais.
Et Seigneur, quelle joie de savoir que par ta grâce, nous sommes des parents imparfaits, des grands-parents imparfaits. Mais Seigneur, toi, tu es parfait. Seigneur, et puis regarder à toi, il n'y aura aucune déception parce que toi, tu es vraiment le Dieu tout-puissant, le Dieu d'amour. Tu es parfait. Nous te bénissons, Seigneur, pour cet amour que tu as pour chacun de nous. En ton nom.
Amen. Amen.
Merci Seigneur pour ce temps de prière, ce temps de partage où nous pouvons nous adresser à toi directement. Merci parce que tu es présent avec nous, que tu nous écoutes et que tu agis dans nos vies et autour de nous. Merci Seigneur pour la vie que tu donnes. Tu es la source de toute vie. Tu es celui qui ouvre les portes d'ici-bas et qui ouvre les portes de ta présence. Nous te remettons Adrien et ses parents. Nous nous remettons aussi entre tes mains en tant que communauté. Et quelles que soient les circonstances, que tu nous aides à tourner nos regards vers toi, Dieu puissant, vers toi, Jésus le Christ, qui nous a montré la voie, que tu sois au centre de nos vies. Amen.
Amen.
Merci.
Sois mon espoir, sois mon chant.
Prenez place. Laurent, est-ce que tu arrives à envoyer le slide 3? Il n'y en a plus que deux normalement. On a parlé des arbres qui donnent de l'ombre aux autres. Vous l'avez peut-être découvert, vous le savez, Heidi et moi, mon épouse et moi, on a une certaine passion pour la nature. En particulier, on va dire, les oiseaux et puis les arbres. Et j'ai beaucoup d'admiration pour les grands arbres. Les chênes, par exemple. Les chênes. Celui-ci se trouve au Jardin botanique, à Genève. Taille impressionnante, qui devrait nous rappeler la majesté et la puissance de Dieu. La beauté que nous voyons dans la création n'existe pas pour elle-même, mais pour rendre gloire au Créateur. Cette beauté de la création doit être valorisée, préservée. La création, elle est précieuse. Nous devrions louer sans cesse le Créateur glorieux qui est à l'origine de cette magnifique création que nous pouvons voir, toucher, entendre et dont nous bénéficions. Quelle bénédiction! Quelle bénédiction! Le chêne, il est comme une main tendue vers la splendeur du Seigneur, comme un geste qui montre sa grandeur, sa permanence. Et puis les chênes, ils nous rappellent aussi Jésus et son œuvre de rédemption, de salut. Ésaïe 61 contient une prophétie, une vieille prophétie encore, à propos de la venue et de l'œuvre de Jésus, du Messie. Et quand Jésus débute son ministère et retourne en Galilée, il enseigne sur cette vieille prophétie. Et selon cette prophétie, l'une des missions du Christ est d'annoncer aux humiliés une bonne nouvelle, afin qu'on les appelle les chênes de justice, la plantation de l'Éternel qui manifeste sa splendeur. Si vous vous demandez ce que Jésus est venu faire, pensez à ce texte. Voilà l'œuvre du salut de Jésus. Élever des chaînes de justice. Pas une religion, mais une relation. Pas des petites améliorations de rien du tout, mais une révolution dans la vie. Pas des choses à vivre en pointillé ou entre parenthèses, mais une œuvre de salut magistrale qui impacte toute la vie de celles et de ceux qui se laissent toucher par le salut proposé par Jésus. Afin qu'on les appelle les chaînes de justice. À qui dit-il ça? Aux humiliés, aux laissés pour compte, aux déconsidérés. Vous, vous êtes déjà senti humilié? Ça vous est déjà arrivé de penser que vous comptiez pour beurre? Alors des fois, on vous le fait sentir, des fois, on vous le dit. Travailler avant dans le domaine des ressources humaines, dans une banque en Suisse, ça ne s'invente pas. On était assez fortiche pour humilier les gens. C'est honteux. Le monde du travail, la famille, la société, les assos, regardez le monde politique, que ce soit en Suisse ou en France. On est fortiche pour humilier les gens, pour les déconsidérer. Observez le racisme dans notre société. Observez la grossophobie. Vous êtes déjà senti humilié? Travail, société, dans votre famille. Voyez ce que Jésus peut et souhaite faire de vous, des chaînes de justice, des chaînes qui reçoivent et qui incarnent la justice. Une grâce donc autant qu'une mission, un cadeau autant qu'un projet. Je trouve cette image imposante. Un chêne y met des décennies pour arriver à maturité, des décennies. À cause de sa croissance qui est lente mais continue, ses racines vont être profondes, son tronc va être épais, il va tenir quand la nature se déchaîne. Il résiste à la chaleur de l'été, il résiste au froid de l'hiver, il résiste aux assauts du vent et de la pluie. Quelque chose d'ancré, de solide, de déployé. Et si vous vous approchez un peu plus près du tronc d'un chêne, vous verrez sûrement de petits champignons. Ils sont assez impressionnants, parce qu'ils poussent parfois en une seule nuit. Et une pichenette suffit à les envoyer valser. Ils n'ont aucune résistance, ces petits champignons. Ils ne tiennent pas longtemps. Ils ne durent qu'un instant. À peine sortis de terre ou du tronc, ils ne sont plus. Mais le chêne, lui, est comme un chrétien ou une chrétienne mature, qui grandit année après année, comme protégé par l'armure de Dieu. Ce qui a fait écrire à l'apôtre Paul, « Enfin, mes frères et mes sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et sa force toute-puissante, afin de pouvoir résister dans les jours mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. » Je prends cette métaphore sous un autre angle. Si vous avez des enfants, vous voudrez certainement élever un chêne de justice et pas un champignon. Ça paraît bête, dit comme ça. Mais quand on y réfléchit bien, ce passage biblique-là est peut-être le plus visionnaire pour les parents. Évidemment, personne d'entre nous n'est le Messie ici. Et Ésaïe 61 ne parle pas directement de nous. Seulement Dieu, dans sa sagesse, utilise des parents pour former une âme humaine, une personnalité unique. Et je ne vois rien dans la vie qui soit plus important que ça. Rien. Tout comme un chêne met du temps à grandir, élever un enfant est un travail de longue haleine. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Parfois, les progrès sont tellement petits qu'on ne les voit pas. Mais Dieu utilise les parents pour planter pas à pas des graines de force et de droiture dans le cœur des enfants, afin qu'au moment où ils partent de la maison, ils sachent résister aux tempêtes d'une culture en pleine folie. Le rôle des parents, alors, même après que les enfants ont pris leur envol, continue. Heidi et moi, on a deux enfants, ils ont 24 et 20 ans. Et nous avons appris et nous apprenons qu'être parent, ça reste l'appel de toute une vie. Dès les premiers instants, comme parents, pensez à l'héritage que vous allez laisser à vos enfants. C'est si tentant de se laisser piéger par l'instant présent et d'éduquer nos enfants à faire ce que nous voulons. Mais dans une éducation basée sur cette image du chêne, la question de l'héritage et de la patience sont centrales. Quelle relation aurez-vous à long terme avec vos enfants? Que pouvez-vous faire pour planter des graines qui donneront des chaînes de justice? Que Dieu vous bénisse.
Thank you.
Nous allons passer un temps d'annonce. Alors, pour rester dans le thème des enfants, mercredi 24 mai, Hans et Franziska ont eu la chance d'être à nouveau grands-parents. Dans la famille de Léonie et Victor, ils ont accueilli Jérémy. Je n'irai pas le poids à la taille, je laisserai les grands-parents le dire. Donc bravo, félicitations. Pour le reste, la suite de cette semaine et les dimanches qui suivent, cette semaine, nous avons le conseil mardi soir à 19h. Ensuite, mercredi, il y a le groupe de jeunes CTT. Je crois qu'il y a une petite slide pour la suite. Ça. Groupe CTT qui est un groupe de jeunes pour les 15-25 ans. C'est le mercredi soir qui se voit à partir de 19h, mais la soirée commence à 20h. Ensuite, dimanche prochain, le culte qui sera suivi d'un repas communautaire, donc le 4 juin. Et puis ensuite, le dimanche 18 juin, ça sera le culte fin de caté. Donc le caté, on a un caté qui est pour les jeunes de 11 à 15 ans. Et donc ils participeront et organisent même ce culte du 18 juin. Et le dimanche 25 juin, qui sera un culte de baptême. Voilà pour les dimanches qui suivent. Et puis, comme toujours, l'Église vide vos dons et nous vous en remercions. Et vous avez à la sortie tout ce qu'il faut pour exercer votre libéralité. Merci beaucoup.
Alors pour terminer ce culte, on va prendre un chant. Enfin, l'équipe va prendre un chant et il va le chanter en anglais, « Blessing ». Et il y aura les paroles en français. Alors, si vous voulez, vous pouvez rester assis et simplement vous approprier ces paroles de bénédiction. Et après le chant, je dirai encore juste un mot d'envoi. Voilà.
Amen. Amen. Amen.
Je vous invite à vous lever. Que nous puissions profiter de l'ombre dont nous avons besoin et que nous puissions planter les arbres qui produiront l'ombre dont nous avons besoin, dont nos fils et nos filles auront besoin. Dans la grâce du Seigneur. Amen. Bon dimanche à chacun. Bon retour, bonne suite. Soyez bénis.